Radio Prague, les informations.
La Tchéquie ne participera pas à l'aide à la Grèce. La police tchèque demande la levée de l'immunité parlementaire de deux députés. Inauguration à Prague du nouvel hôpital pour enfants à Motol. La République tchèque ne participera à l'aide de l'Union européenne à la Grèce menacée de faillite. L'aide à la Grèce ne sera assurée que par les pays de la zone euro et le Fonds monétaire international. La République tchèque et les autres pays qui ne font pas partie de la zone euro ne participeront pas à cette initiative. Selon le Premier ministre tchèque Petr Nečas, c'est un succès des contribuables tchèques. La police a demandé à la Chambre des députés tchèques la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien ministre des Transports Vít Bárta du parti Affaires publiques et de l'ancien membre du parti Affaires publiques Jaroslav Škárka. Vít Bárta est soupçonné d'avoir donné un pot de vin à Jaroslav Škárka et ce dernier pourrait être poursuivi pour avoir gardé la somme qui lui a été offerte. Inauguration en cette fin de semaine du nouvel hôpital pour enfants de l'hôpital universitaire de Motol à Prague. Il s'agit d'un des plus grands hôpitaux pour enfants en Europe avec une piste d'atterrissage pour hélicoptère en haut du bâtiment. Les travaux ont coûté environ 5 milliards de couronnes, soit près de 150 millions d'euros. L'association des régions tchèques envisage de créer sa propre caisse d'assurance maladie. Elle considère cette mesure comme une possibilité pour assurer l'égalité de financement des établissements médicaux, quel que soit leur propriétaire. Une déclaration du président du conseil régional de Moravie du Sud, Michal Hašek, chef de l'association des régions tchèques. En visite au Salon du Bourget en France, le commissaire européen à l'industrie, Antonio Tajani, a annoncé la signature de deux contrats français et britanniques qui permettront de finaliser la mise en place du réseau européen de navigation assistée baptisé Galileo. L'année dernière, l'Union européenne a choisi Prague pour accueillir le siège social de Galileo. La Commission européenne a critiqué la République tchèque pour ses insuffisances dans l'utilisation des fonds structurels. Bruxelles reproche à la République tchèque de ne pas réduire suffisamment les inégalités entre les régions les plus développées et les plus pauvres et constate également l'absence d'une stratégie sur le long terme de développement à l'échelle régionale. Tour de la ville de Trébogne. Tel est le titre du festival qui commence dans la ville de Trébogne en Bohême du Sud. C'est déjà la 20e édition de ce festival qui mélange les genres. Le public de Trébogne pourra assister dans son cadre à des représentations et des concerts de dizaines d'ensembles et de solistes. Pour la soirée inaugurale de ce vendredi, les organisateurs ont choisi une représentation du théâtre Jara Zimmermann de Prague et le concert du groupe Yananas. Météo. Ce vendredi, fête des Jan, Jean, selon le calendrier tchèque. Le ciel en Tchéquie est nuageux à variable avec des pluies par endroits. Les températures maximales sont comprises entre 18 à 22 degrés. Samedi, le temps en Tchéquie sera nuageux à couvert et il pleuvra par endroits. Les températures diurnes ne dépasseront pas 21 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission et merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. Au programme du jour, on parlera de la semaine de la liberté qui se déroule à l'occasion des commémorations du 20e anniversaire du départ des troupes soviétiques du territoire tchèque. Et puis coup de projecteur sur le palmarès de la quadriennale de Prague, l'événement de la scène des arts vivants qui s'achève le 26 juin. Notre rubrique du jour sera consacrée à une revue de la presse tchèque. Bonne écoute de ce programme. C'est par l'installation lundi dernier au bord de la rivière Vltava du fameux char soviétique peint en rose qu'a commencé à Prague la semaine de la liberté. Conférences, débats, expositions et projections de films sont à l'affiche de cette manifestation qui, jusqu'au 1er juillet, rappelle deux événements majeurs du début de l'été 1991, la fin du pacte de Varsovie et le départ des derniers soldats soviétiques de l'ancienne Tchécoslovaquie. Magdalena Rozenkova.
Érigé sur un piédestal sur l'ancienne place Stefanik dans le quartier pragois de Smichov, le char soviétique numéro 23 symbolisait sous le communisme la libération de Prague par l'armée rouge. Dans la nuit du 27 au 28 avril 1991, il a été peint en rose par le jeune plasticien David Cherny, le même artiste qui allait créer en 2009 la sculpture géante Anthropa, une œuvre choc qui a fait scandale lors de la présidence tchèque de l'Union européenne. Repeint en kaki, puis à nouveau en rose, le char a été placé au musée de l'armée de Lechane. L'association Opona, en français Rideau, principal organisateur de la Semaine de la Liberté, l'a ressorti du musée à l'occasion du 20e anniversaire du départ des troupes soviétiques de l'ancienne Tchécoslovaquie. Cette curiosité a été installée sur une péniche à proximité du pont Charles, où elle est à voir jusqu'au 1er juillet prochain. Pavla Kantnerova de l'association Opona explique.
Nous avons voulu placer le char en haut de la place Venceslas, car c'est un lieu symbolique pour les Tchèques, mais cela n'était pas possible pour des raisons techniques. Le char pèse 42 tonnes et la grue qui devait le poser à l'endroit où il allait être exposé est à peu près du même poids. Ces deux engins risquaient de s'enfoncer dans le métro. Nous avons donc placé le char dans le quartier de la vieille ville avec une vue qui est un endroit tout aussi symbolique.
Aujourd'hui, comme au début des années 90, le char rose fait débat. Pavla Kantnerova.
Les réactions des Tchèques sont contradictoires, mais en général, l'écho est plutôt positif. Les étrangers qui le voient ne savent souvent pas de quoi il s'agit. Évidemment, le char éveille leur curiosité, et quand on leur raconte son histoire, ils disent que c'est un joli symbole de la fin de l'occupation soviétique.
Ces derniers jours ont été inaugurées dans le cadre de la Semaine de la Liberté deux expositions de photographies et de dessins. L'une est consacrée aux dissidents biélorusses, l'autre, inédite en République tchèque, révèle les conditions inhumaines dans les camps de travail nord-coréens où sont envoyés les prisonniers politiques. Pavla Kantnerova.
La première exposition présente 12 portraits de personnes qui s'opposent activement au régime d'Alexandre Loukachenko. Nous voulions montrer par là comment certains Tchèques auraient pu vivre aujourd'hui si notre pays avait pris une autre direction après la révolution de velours. Quant à l'exposition sur les camps de concentration nord-coréens, nous l'avons mise en place en partenariat avec l'organisation sud-coréenne Free the NK Gulag. La plupart de ses membres ont quitté la Corée du Nord. Certains ont réussi à s'échapper de ces prisons. Leur objectif est d'informer le public de la situation réelle en Corée du Nord. Le régime nord-coréen nie l'existence de ces camps, même s'ils ont été photographiés par satellite. Nous exposons les dessins des anciens prisonniers politiques qui racontent la vie de tous les jours dans les camps où il est interdit de prendre des photos.
Une conférence internationale consacrée à la fin du pacte de Varsovie aura lieu toujours dans le cadre de la Semaine de la Liberté, lundi et mardi prochain, au ministère tchèque des Affaires étrangères. De nombreuses personnalités y seront présentes, parmi elles Václav Havel et Jean-Pierre Chevènement. L'un des principaux acteurs de cette époque, l'ex-ministre tchécoslovaque des Affaires étrangères, Jiří Dienstbier, décédé au début de cette année, sera le grand absent de cette rencontre. Enfin, ce week-end aura lieu à Prague le festival de musique United Islands of Prague, co-organisé par l'association Opona, Pavla Kantnerova.
Je voudrais surtout inviter au concert du groupe Porno Parada Ricardo, qui est depuis longtemps pointé du doigt par les autorités cubaines. Malheureusement, nous ne pourrons accueillir que le leader du groupe qui vit au Mexique. Les autres musiciens n'ont pas obtenu l'autorisation de quitter Cuba. Mais Gorky Aguila se fera accompagner cette fois par le groupe tchéco-lituanien Ala Verdi. Voilà, et plus de détails sur la programmation de la Semaine de la Liberté au www.opona.eu. La 12e édition de la Quadriennale de Prague touche à sa fin. C'est dimanche que se termine cette exposition mondiale, unique, consacrée au théâtre et aux arts vivants, qui se déroule dans la capitale tchèque tous les 4 ans depuis 1967. On connaît déjà les principaux lauréats de cette édition, comme l'a indiqué Nathalie Franck, chargée de la communication de l'événement à Alexis Rosenzweig.
Nathalie Franck, bonjour. La Quadriennale de Prague touche à sa fin et on connaît déjà ceux qui ont remporté les prix principaux. Et la catégorie principale a été remportée par des artistes du Brésil.
Oui, c'est le Brésil qui a gagné cette Quadriennale. Ils ont gagné la Golden Triga, qui est le prix le plus prestigieux dans le domaine de la scénographie. Pour une exposition qui montre vraiment différents aspects du spectacle et du théâtre et dans quoi le spectacle s'inscrit donc de la rue brésilienne aux plus grandes scènes.
Donc qui représente la création contemporaine au Brésil aujourd'hui dans son ensemble. Il y avait beaucoup de catégories, alors on ne va pas les citer toutes. Je crois que les Croates s'en sont également bien sortis.
Oui, l'exposition croate qui est très innovante et surprenante, qui a gagné deux prix, le prix de la meilleure scénographie et le prix de la meilleure utilisation de la technologie dans le théâtre.
Alors je rappelle que donc ces expositions nationales sont à voir encore au Palais des Expositions dans le quartier de Holešovice jusqu'à dimanche. On se trouve ici au-dessus de la Piazzetta, donc dans la nouvelle scène, et on peut voir l'exposition Intersection, les cubes, qui a eu un certain succès, je crois, avec beaucoup de jeunes qui ont été voir les différentes expositions dans les différents cubes.
Je précise juste le lieu, c'est pas le Palais des Expositions, c'est la Galerie Nationale de Prague à côté de Strossmayerhorn à Miesti. Donc c'est là-bas qu'a lieu effectivement la partie principale de l'exposition. Donc je répète, on a 62 pays qui montrent ce qu'il y a de meilleur dans leur théâtre. Et généralement les artistes sont présents, donc on a du matin au soir des pavillons extrêmement animés avec des acteurs, des conférences, des discussions, des pots. Et c'est 62 pays, donc vous voyez vraiment des formes de théâtre et de scène très très différents, sans oublier l'exposition de costumes au sous-sol, qui est au sous-sol, mais à ne pas manquer, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Donc ça, c'est à la Galerie Nationale, et un peu plus loin au centre, en prenant le tram numéro 17, vous vous retrouvez devant le Théâtre National, et là, vous avez les cubes, qu'on appelle aussi les box, du projet Intersection, et ça, c'est vraiment la poursuite du dialogue. Donc on a d'abord les expositions des pays, qui montrent chacun ce qu'ils ont dans leur pays, et on continue le dialogue sur le spectacle, sur les arts performatifs d'aujourd'hui, dans les box d'Intersection, qui proposent une sorte de balade dans une microstructure éphémère, dans ces 30 box dont on a déjà parlé, et chaque box est habitée par un artiste, par une installation ou des performances. Ici aussi beaucoup d'artistes vivants, par exemple le chorégraphe serbe qui travaille en France, Josef Nač, qui est présent et qui donne un spectacle là-bas deux fois par jour.
Alors la Quadriennale touche à sa fin, on connaît déjà les prix et on peut déjà faire un pré-bilan avec également un certain succès du côté des ateliers ou séminaires organisés par des professionnels. On a eu au micro de Radio Prague un scénographe ivoirien qui nous avait présenté son projet de recyclage en quelque sorte de déchets pour créer des scènes de théâtre. Et je crois que beaucoup d'étudiants du monde entier sont venus assister à plusieurs de ces ateliers.
Oui, alors effectivement, on a eu une participation, enfin on est très content, on a vraiment l'impression de vivre dans une espèce de monde parallèle de spectacles et de théâtre, puisque aussi bien à la Galerie Nationale, sur la Piazzetta, à la Nova Scena, à l'église Sainte-Anne et à la Damou, où ont lieu tous les workshops étudiants, on voit énormément de conversations qui se créent et de gens qui se rencontrent, qui sont tous de près ou de loin liés à la scénographie dans leur pays et qui, comme tout à l'heure, lors du meeting pour presse, ont précisé certains artistes qui étaient présents. Un des grands avantages de la Quadriennale aussi pour eux, c'est vraiment de créer une occasion de rencontre. Et donc il y a énormément de connexions professionnelles ou plus informelles qui se créent entre eux, c'est donc plus de 7000 personnes qui viennent du monde entier et qui viennent ici vraiment pour la scénographie, pour le théâtre et pour les rencontres.
La prochaine Quadriennale de Prague, c'est en 2015. Merci beaucoup Nathalie Franck. Peut-être qu'on se reparlera dans 4 ans.
À dans 4 ans.
Voilà, c'est la fin des faits et événements. Alors je vous rappelle, comme je vous le disais dans la première partie de notre émission, que la Semaine de la Liberté se déroule dans le cadre des commémorations du 20e anniversaire du départ des troupes soviétiques du territoire tchèque. Et on reparle de cela dans notre rubrique de ce vendredi. En effet, le 21 juin, 20 ans se sont écoulés depuis le départ de l'ancienne Tchécoslovaquie du dernier convoi militaire russe pour l'Union soviétique. L'édition de mardi du quotidien Lidové Noviny rappelait certains aspects de cet événement, le replaçant dans un contexte historique. Dans une des précédentes éditions de ce même journal, on pouvait également lire un article consacré, comme son titre l'indique, au nouveau martyr tchèque, Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Le séjour des soldats soviétiques sur le territoire tchécoslovaque qui s'y sont installés au lendemain de l'écrasement du fameux printemps de Prague, un séjour prétendument provisoire, a duré 23 ans.
L'invasion du pays par les troupes du pacte de Varsovie, dont le but consistait à étouffer le mouvement de démocratisation et de réforme, a démarré dans la nuit du 21 août 1968. Près d'un demi-million de soldats, pour la plupart des unités soviétiques, ont pris alors part à l'opération qui a coupé court au vent de liberté ayant déferlé pendant plusieurs mois sur le pays. Ce sont d'ailleurs celles-ci qui sont restées en Tchécoslovaquie dès la signature du protocole de Moscou qui a donné le coup d'envoi au processus de normalisation, les soldats d'autres États frères s'étant en grande partie retirés.
5 divisions terrestres et une division aérienne, soit au total près de 75 000 soldats. Tels étaient, comme le rappelle le journal Lidové Noviny, les effectifs militaires soviétiques établis en territoire tchèque et slovaque entre les années 1968 et 1991, et d'ajouter que leur nombre est demeuré pendant toutes ces années pratiquement stable.
À deux exceptions près, en hiver 1969, suite aux émeutes au centre de Prague provoquées par la victoire des hockeyeurs tchécoslovaques sur la sélection soviétique au championnat du monde, un renfort de 8000 militaires a été envoyé dans le pays, tandis que 1500 soldats russes ont quitté le territoire vers la fin des années 1980 dans le cadre de la réduction de l'armée rouge mise en place sous la direction de Mikhail Gorbatchev.
L'armée soviétique disposait dans le pays occupé de plus de 80 garnisons. Son état-major se trouvait à Milovice, ville de Bohême centrale située à 35 km de Prague, amenée à accueillir quelques 20 000 soldats avec leurs familles. Les autres garnisons ont été réparties dans une trentaine d'autres villes tchèques et slovaques à travers tout le pays, dont nos citraques Olomouc et Mladá Boleslav.
Le journal Lidové Noviny rappelle en outre qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie était le seul pays de l'Europe centrale et orientale d'où l'armée soviétique s'était retirée quelques mois après la fin de la guerre. Une réponse au fait que la partie occidentale de la Tchécoslovaquie avait été libérée au printemps 1945 par les Américains qui, eux, ont quitté le pays à la même date que les Soviétiques. À ce sujet, il remarque.
Dès le début des années 60, les Soviétiques avaient beaucoup de mal à accepter l'absence de leur propre armée en Tchécoslovaquie. C'est effectivement à cette époque-là qu'ils ont réalisé qu'une grande partie des forces armées sur lesquelles le pacte de Varsovie comptait n'y existait que sur papier. Jusqu'au mois d'août 1968, les dirigeants communistes tchécoslovaques ont réussi à résister à la pression de Moscou.
Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane.
Après la chute du régime communiste en novembre 1989, le départ des troupes soviétiques a été une des premières revendications présentées par le public tchécoslovaque. Par ailleurs, dès le mois de décembre de cette même année, le gouvernement qualifie l'invasion par les troupes du pacte de Varsovie d'acte violant les normes relatives aux relations entre États souverains. Le quotidien Lidové Noviny écrit.
Les négociations sur le départ des troupes soviétiques ont commencé immédiatement après la révolution de Valours. L'accord définitif dans lequel la partie russe s'engageait à faire partir le dernier soldat russe d'ici à la fin du mois de juin 1991 a été adopté en février 1990 et signé par les chefs de diplomatie des deux pays de l'époque, Jerzy Dinsbir et Eduard Shevardnadze. C'est ce qui s'est réellement passé, le dernier convoi ayant franchi la frontière le 21 juin 1991. 6 jours plus tard, le commandant en chef des troupes soviétiques, Eduard Vorobiev, quitte définitivement la Tchécoslovaquie, et le journal de préciser.
Pendant ce délai, il a fallu déplacer non seulement 73 500 soldats, mais aussi 39 000 membres de leurs familles, 1 220 chars, 2 500 blindés, 105 avions, 175 hélicoptères et 95 tonnes de munitions. Autant d'effectifs et d'équipements implantés dans le pays pendant l'occupation soviétique.
Le grand déplacement à destination de l'Est s'est effectué sous forme de près de 900 convois, le plus souvent par voie ferrée.
Dans la page consacrée au 20e anniversaire du départ du pays des derniers soldats russes, le quotidien Lidové-Noveny cite aussi les souvenirs de certains d'entre eux. Une occasion de constater qu'aujourd'hui encore, beaucoup considèrent l'opération à laquelle ils ont participé comme une aide fraternelle accordée à la population tchèque.
L'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie et le séjour provisoire de 23 ans de l'armée soviétique ont coûté la vie à près de 300 Tchèques et Slovaques. Les dégâts matériels causés, qui ont été chiffrés à plus de 6 milliards de couronnes et qui sont notamment d'ordre écologique, n'ont pas encore été entièrement liquidés.
Il y a quelques semaines, la Chambre des députés a donné son aval à la loi sur la résistance anticommuniste. Une des récentes éditions du quotidien Lidové-Noveny s'est penchée dans ce contexte sur un chapitre qui a été jusqu'ici assez peu traité, celui des persécutions et des victimes dans les rangs de l'Église catholique. Dans un article intitulé « Les nouveaux martyrs tchèques », nous pouvons lire.
La liste des nouveaux martyrs et victimes, qui a été à cette fin rédigée par des commissions de théologiens et d'historiens, compte 234 personnes, prêtres, religieux, laïcs, tous ceux qui se sont opposés au régime nazi et communiste, éventuellement qui sont morts lors du transfert des Allemands en 1945.
Il reste désormais à brosser les portraits de l'ensemble des victimes. Afin de mener à bien le projet qui est dirigé par l'Académie chrétienne tchèque et qui a été initié par le pape Jean-Paul II. Son but consiste à établir la martyrologie nationale du XXe siècle. Dans les pages du journal, le coordinateur du projet Jan Stříbrný explique.
Notre travail a deux niveaux. D'abord, il s'agit d'apporter de nouvelles connaissances à l'histoire nationale moderne et de renouer avec ce qui avait été fait dans ce domaine par les juifs et par les protestants. Deuxièmement, il s'agit d'établir une martyrologie officielle.
Les hommes et les femmes qui figurent sur la liste en question ont connu des sorts différents. Ils ont pour autant un trait en commun, une foi profonde et des sentiments patriotiques très forts dont ils ont fait preuve tant pendant l'occupation nazie que sous le communisme.
Les histoires de certains martyrs sont extraordinaires, peut-on lire dans le journal. Parmi tant d'autres, il rappelle celle du très jeune prêtre Jan Bula, l'un des trois prêtres exécutés en 1952 dans le cadre de l'action Babice, initiée par la police d'État, ou encore celle de Bohuslav Burian, prêtre de Slavonice en Bohême du Sud.
Rescapé des camps de concentration d'Auschwitz et de Buchenwald, il a servi dès le coup d'État communiste en 1948 de passeur, faisant franchir clandestinement la frontière à plusieurs personnes qui voulaient se sauver devant le régime communiste. Arrêté, il a été de nouveau mis en prison pour être soumis à un régime très sévère. En 1960, il est décédé dans un hôpital pénitentiaire à l'âge de 40 ans seulement.
Sur la liste des martyrs tchèques du XXe siècle, on ne trouve qu'une dizaine de femmes. Cela pourrait s'expliquer par le fait, signale Jan Stribeny, que les représailles à l'égard des femmes ont quand même été moins massives que, par exemple, en Pologne ou en Union soviétique.
Le journal évoque également la collaboration de certains prêtres avec le régime communiste. Le cas notoirement connu est celui de Josef Plojhar, chef du parti chrétien tchécoslovaque après la guerre et ministre de la Santé publique de 1948 à 1968. Son nom est devenu dès lors le synonyme de collaborateur et de traître.
Voilà, c'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Toutes ces émissions, vous le savez, vous pouvez les retrouver en podcast, en streaming, mais également sous forme écrite sur notre site, le www.radio.cz. Merci de votre fidélité. Bon vent.